RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui Didier Giraud, agriculteur, Barbara Lefebvre, professeur d'histoire-géographie, et le médecin, le docteur Jérôme Marty. On va s'intéresser maintenant à ce qui est préconisé en ce qui concerne les enfants et les téléphones portables.
RMC, les grandes gueules.
En fait, le président de la République doit aujourd'hui se voir remis une étude qui alerte sur les conséquences des écrans sur les tout-petits. Alors, il y a un certain nombre de préconisations et une ligne directrice, notamment les smartphones sans réseaux sociaux jusqu'à l'âge de 15 ans.
Oui, ce sont des médecins qui ont travaillé sur cette étude, dont un psy. Ils veulent donc que les adultes reprennent le contrôle face aux écrans et par rapport à leurs enfants. Donc ils n'y vont pas par quatre chemins. Ils appellent à empêcher tout usage par des enfants de moins de 3 ans du téléphone portable, des écrans. Entre 3 et 6 ans, un accès fortement limité avec des contenus de qualité éducative et accompagné par un adulte. La commission préconise de n'autoriser le téléphone portable qu'à partir de 11 ans. Donc c'est l'entrée du haut collège, via un téléphone sans internet jusqu'à 13 ans. Donc c'est un téléphone sans internet, je ne sais pas trop ce qu'on peut faire avec.
Et à partir de 13 ans,
mais plus personne téléphone. Et à partir de 13 ans, la commission propose de donner un smartphone sans accès aux réseaux sociaux jusqu'à 15 ans. Voilà, donc ça va être assez restrictif. C'est des recommandations, on verra ce que Emmanuel Macron en fait. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces préconisations ?
Jérôme, puisque ça vient de la communauté scientifique.
Sur l'absence d'écran à 23 ans, oui, ça sans problème. Après, sur le fait de bloquer les réseaux sociaux jusqu'à faire avant 15 ans, je suis assez dubitatif parce qu'il y a tout. Enfin, il y a à la fois tout, mais il y a du bon et du mauvais sur les réseaux sociaux. Donc
Et à partir de 15 ans, uniquement sur des réseaux éthiques. Ouais. Là, le problème, c'est que quand on leur demande de qualifier c'est quoi un réseau éthique,
ce que ça soulève comme problème, c'est la problématique de l'absence de possibilité d'agir pour les nations sur ces énormes entreprises que sont devenues les GAFA, Google, Apple, Facebook, Twitter, etc., X. Enfin, c'est devenu des États dans les États, quoi. C'est devenu des supranations, quoi. Et ils arrivent à avoir leur propre justice, leur propre système. Enfin, ils ne respectent pratiquement aucune loi des pays où ils sont. Et personne ne fait rien, quoi. Personne ne fait rien. Donc là, on dit on va interdire d'user. On sait que c'est pas possible. Enfin, je vois pas vraiment comment on pourrait faire. Pour empêcher un gosse d'accéder aux réseaux sociaux, on est incapable de les empêcher d'aller sur des sites pornographiques qui sont soi-disant limités aux moins de 18 ans. Donc comment tu vas limiter le reste? Par contre, chez les tout petits, ça oui, quoi. On voit l'écran est devenu une espèce de sucette numérique, quoi. On calme le gosse en lui donnant un écran. Sauf que la chuchu, elle te coupe pas du monde extérieur. Alors que là, ça les coupe du monde extérieur. Et donc, tu as une espèce de barrière qui se crée de plus en plus, avec des mômes qui sont aspirés par l'écran, qui n'ont plus de relation avec l'extérieur. Et ça, oui, ça risque d'impacter fortement le développement. Ouais.
Vas-y.
Moi, ce que je pense dans ce qui me paraît être correct dans ce qu'ils ont dit, enfin, tu vois, on le sent bien. Enfin, moi, j'ai eu des enfants. Chaque parent le vive. C'est que la pression de l'acquisition du premier portable, elle est autour de l'entrée au collège, surtout dans nos zones rurales. Et je trouve que avoir un portable, c'est pas un accès illimité sur tout l'espace numérique du monde, quoi. Hein. Je pense qu'une période entre l'entrée au collège et une date que je sais pas comment ils ont fait pour la définir.
Mais c'est ça le problème.
Sans internet.
Pourquoi 15 ans? Pourquoi pas 15 ans?
Au lycée, c'est parce qu'ils font collège, lycée.
Le collège avec un portable pour téléphoner, envoyer des textos sans internet, je trouve que ça serait plutôt sain pour le développement des enfants. Après, quel moyen on a pour les contraindre là-dedans? J'en sais rien, quoi. C'est à mon avis très compliqué de les contraindre là-dedans.
D'ici à ce qu'on mette en place la loi, les portables existeront plus.
On est d'accord. Non, mais moi je suis assez d'accord avec ce que dit Jérôme. On sait très bien, même si on le souhaiterait tous, hein, qu'au collège, moi je pense honnêtement que jusqu'à la fin du collège, les élèves ne devraient pas avoir accès aux réseaux sociaux parce qu'ils sont incapables de gérer à la fois leur addiction, et c'est tout à fait normal. C'est fait pour être addictif. La prévention, je veux bien. Alors maintenant, on nous dit qu'il va falloir faire des heures de prévention au numérique. Oui, ok. Donc, en plus des enseignements qu'on n'arrive déjà pas à transmettre, on va se taper le numérique. Bon, les parents sont aussi responsables. Donc, il y aurait quelque chose à faire. Néanmoins, comme on sait qu'on ne va pas y arriver, je suis assez d'accord sur le fait qu'en fait, on n'a toujours pas des politiques à échelle suffisamment forte, notamment à l'échelle européenne, qui ont le courage de se heurter aux GAFAM. Et aux Chinois. Voilà. Donc ça déjà, l'impuissance politique fait que on va interdire aux gens d'utiliser les réseaux sociaux. Ok. Donc vous signez là surtout votre impuissance. Deuxièmement, moi je suis pour qu'on lève absolument l'anonymat. Je suis contre l'anonymat sur les réseaux sociaux, que ce soit pour les enfants, pour les adultes, peu importe.
Ça n'existe pas l'anonymat.
Non, oui, mais si les pseudos. Non,
oui,
mais si.
On les retrouve, les gens.
On les retrouve, mais non, on les retrouve.
Ouais, mais il faut que ça soit grave pour les retrouver.
On les retrouve seulement avec un nombre de signalements pharos qui est absolument hallucinant chaque jour. On en a tous fait, moi j'en fais, d'ailleurs en ce moment j'en fais pas mal, des signalements pharos. Pour l'instant, les retours sont minimums parce que la police du numérique, elle n'est pas là pour pouvoir répondre à tout. Je pense qu'il y a un certain nombre de gens, si déjà ils écrivaient sous leur vrai nom, crois-moi qu'ils écriraient différemment de la façon dont ils écrivent sous pseudo. La levée de l'anonymat, me semble-t-il, devrait être le B.A. Bah, tu n'écris pas un livre, tu ne parles pas à la télé et en radio, tu n'es pas là avec un filtre et avec l'intelligence artificielle qui prend ta figure à la place. Tu assumes ce que tu dis. Quand tu as une parole publique sur les réseaux sociaux, tu dois assumer.
Là, on détourne un peu du sujet.
Non, on ne détourne pas. Non. Parce que je ne suis. Je
ça réglerait une partie des problèmes.
Non, mais parce que là, on nous
explique. Tu fais la levée de l'anonymat, tu règles une grande partie des problèmes. Les gens s'auto-réguleront.
On nous explique que tout est la cause des réseaux sociaux. C'est-à-dire que s'il y a une montée de la violence, c'est les réseaux sociaux. S'il y a un retard à l'apprentissage, c'est les réseaux sociaux. Pardon, mais moi, je n'ai pas vu d'études le démontrant. Donc, moi, je trouve qu'il y a un bashing.
Ici, il y a des études.
Il y a un bashing. Non, il n'y a pas d'études. Il n'y a pas d'études sérieuses qui démontrent précisément que le fait de regarder un smartphone gamin provoque des retards d'apprentissage.
Il y a des études scientifiques qui ont été menées là-dessus. Eux-mêmes ne le citent pas. Ils sont interrogés et disent
oui, il y a des études, mais ils ne les citent jamais. Donc
si, aux États-Unis, même en France, tu as quelqu'un qui avait écrit un bouquin et c'était un chercheur sur le. Avec des sources. Et il y a d'autres livres. Et il y a d'autres. Surtout, il y a d'autres recherches scientifiques.
Tu montreras les éléments scientifiques qui justifient, effectivement, qu'on interdise aujourd'hui les portables à des mineurs ou des réseaux sociaux. Je pense qu'on est dans un bashing contre les écrans et les réseaux sociaux. Ben, la responsabilité individuelle, c'est aux parents.
Un gamin de 11 ans, c'est quoi sa responsabilité individuelle?
C'est aux parents. Mais c'est ses parents. C'est les parents de fixer des règles.
Moi, je les vois, les parents au collège. Ils sont incapables de gérer leurs gosses avec les réseaux.
Donc c'est l'État qui gère rien, mais tout d'un coup va bien gérer ça.
Sur le fond, t'as raison, Olivier, mais tu peux pas dire qu'il n'y a pas de problème.
Donc c'est. Mais moi, j'aimerais bien des études scientifiques.
Non, mais. Alors attends, moi qui suis un vieux provincial, complètement réfractaire à tout ça, je m'amuse à regarder depuis 4 ans, 5 ans, dans une rame de métro où il y avait 10% de mecs sur leur téléphone, il y en a 110% parce que j'en vois avec deux écrans.
Non, mais c'est pas ça l'étude scientifique, c'est pas une étude scientifique. L'étude scientifique, c'est ceux qui nous expliquent que ça a un lien avec la montée de la violence, le retard d'apprentissage, etc.
Non, mais Olivier,
fait que tout le monde regarde ton portable dans le métro n'a aucun lien avec ce que je raconte.
Juste un point, n'oubliez pas le harcèlement en ligne, parce que ça, chez les gosses, oui, la violence, elle naît de ça. Et là où je te rejoins, c'est que souvent le harcèlement en ligne est basé sur le pseudonyme.
Avant les réseaux sociaux.
Même chez lui,
il est aggravé par les réseaux sociaux, c'est incroyable cet aveuglement.
Alors attends, on va écouter.
Va voir ce que c'est un collège, va voir tous les problèmes qui naissent sur les réseaux sociaux. Raphaël Grably,
qui est avec nous, qui est chef de service tech BFM TV. Bonjour Raphaël.
Bonjour à tous.
Alors, smartphone sans réseaux sociaux jusqu'à 15 ans, est-ce que c'est possible?
Bah oui, c'est possible si techniquement on a des smartphones qui ne permettent pas d'utiliser ces applications et d'installer les applications, c'est possible. Après, ce qui est très compliqué, déjà j'entends parler de la majorité, de cette fameuse loi sur la majorité numérique à 15 ans, est-ce qu'il faut interdire avant 15 ans, etc. Déjà, faut dire un truc très simple, c'est que ça se fait pas au niveau français. Comme disait Barbara tout à l'heure, ça se fait au niveau européen. Donc il y a une loi qui a été votée sur la majorité numérique à 15 ans en France en juillet 2023. On sait qu'elle ne sera pas appliquée parce qu'on n'a pas le droit d'imposer des choses aux plateformes qui sont dans l'Union européenne, etc. Donc tout ce qui est loi franco-française, déjà je vais vous arrêter assez net, j'ai envie de dire c'est mort-né. Ça peut se traiter juridiquement qu'au niveau européen. Voilà. Et après, par contre, hormis le côté légal, on peut avoir le côté technique. Alors, il y a le problème de la vérification d'âge. C'est bien d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, mais comment vous vérifiez l'âge des gens? Parce que ça veut dire qu'il faut vérifier l'âge de tout le monde, hein, parce qu'avant, on ne sait pas qui est majeur, qui est mineur, qui a plus de 15 ans ou pas. Donc, c'est-à-dire qu'il faut vérifier l'âge de tous les Français. Donc, techniquement, comment on fait? Comment ça se passe? Est-ce que vous donnez votre carte d'identité à Facebook, à TikTok?
Déjà, ça résoudrait les problèmes
à TikTok,
par rapport aux problèmes d'anonymat.
Moi, je donnerais pas mon identité, ma carte d'identité à TikTok. Aux Chinois, merci beaucoup.
Voilà. Donc, en fait, ça crée d'autres problèmes techniques. Donc, moi, là où.
C'est pour ça que j'ai pas les réseaux sociaux.
Non, mais là où on peut être assez pragmatique, c'est de dire, en tant que parent, déjà, on a des outils techniques qui sont quand même plutôt bien faits, qui existent déjà sur iPhone, sur Android, qui permettent de gérer ou pas l'installation d'applications, tout simplement. L'idée d'un smartphone sans Internet, c'est pas mal non plus, je trouve.
C'est important au collège. Dans les premières années de collège, c'est important.
Exactement, c'est un smartphone pour, en tant que parent, être assuré, pour échanger. Bon, alors sans aller vers le vieux Nokia, parce qu'honnêtement, imposer aux enfants d'écrire avec les claviers, les fameux claviers T9 là qu'on avait il y a 25 ans. C'est un peu les punir. Mais un smartphone sans Internet sur lequel on contrôle les accès sur les applications, j'ai envie de dire, c'est le plus pragmatique.
Mais Raphaël, une question quand même, pardon. Tout ça, c'est bien. Là, on fixe des âges, 3 ans, 11 ans, 15 ans, pourquoi pas 14, 10, 12, bref. Quelles sont les études scientifiques sérieuses qui démontrent effectivement que depuis qu'il y a les réseaux sociaux et les portables dans les mains de nos enfants, ils ont un retard d'apprentissage, ils sont plus violents, ils sont plus ignares, etc. Moi, j'aimerais bien avoir ces études scientifiques. À chaque fois, on nous dit, il y a des études, mais moi qui regarde vraiment ce sujet, ça m'intéresse. Je suis parent, donc ça m'intéresse. Je ne les trouve pas, ces études.
C'est normal que tu les trouves pas, parce qu'honnêtement, il n'y en a pas vraiment.
Merci,
en fait,
Raphaël.
Le consensus, parce que quand on discute avec les spécialistes, le consensus déjà, c'est de dire l'addiction aux réseaux sociaux, l'addiction aux écrans.
Bien sûr.
Pour le moment, faut arrêter d'utiliser ce terme d'addiction, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de substance. Quand vous retirez un écran à quelqu'un qui consulte 12 heures par jour un écran, il ne va pas se trembler, il ne va pas avoir un problème de sevrage.
C'est pas la cigarette ou l'alcool.
Exactement. Donc, faut arrêter d'utiliser ce terme d'addiction. C'est pareil sur les jeux vidéo. Jamais aucune étude n'a montré que les jeux vidéo.
Ah oui, mais moi j'ai déjà vu des ados qui viennent fous quand tu leur confisques le portable. Dire qu'il n'y a pas d'addiction.
J'ai trouvé deux études sur une étude de 2023 américaine qui associe les écrans à retard de développement. Une autre qui montre que le temps de les expositions excessives. Non, mais ça existe.
Je parle de consensus scientifique parce que des études on en trouve tout.
Ah bah oui, d'accord. Mais enfin, pour qu'il y ait un consensus académique, il faut qu'il y ait eu plusieurs études.
Donc, la seule chose que l'on peut dire, c'est que le temps perdu se rattrape pas et que quand tu as des gosses qui passent des heures devant l'écran, pendant qu'ils sont devant l'écran, ils sont pas en apprentissage ou autre.
Là
où tu as l'impact, c'est aussi ça. Si tu veux, chez les tout minots, il y a ça, quoi.
Oui, on disait de la télé quand la télé est apparue.
Voilà, alors déjà.
C'est exactement des amants. Il y avait des Jérôme Marty à l'époque qui nous expliquait le temps passé sur l'écran, la télé va te rendre dingue. Effectivement, si tu passes toute ta journée devant la télé, tu passes pas à faire autre chose.
Et il y a quelques centaines d'années, on disait la même chose avec les livres.
Exactement.
La question, c'est pas est-ce qu'on est devant un écran ou pas, c'est ce qui s'affiche. Parce qu'en fait, on parlait des gens devant un écran dans le métro.
Si tu lis un livre.
Moi, quand je suis dans le métro, je lis, mais j'ai aucun livre chez moi parce que je l'ai lu sur un écran.
Dans le métro.
La question qui est posée, c'est pas ça. C'est faut-il interdire les réseaux sociaux? Donc pourquoi vous arrivez maintenant à dériver à dire. Nous sommes tous en train de lire Marcel Proust sur Kindle. Non, mais tout le monde est en train de lire Marcel Proust dans le métro, c'est bien connu.
Non, mais moi, je parlais de l'addiction.
Tout le monde est sur Twitter et TikTok.
Tu dis qu'il n'y a pas d'addiction, mais
c'est pas une addiction, c'est des modes d'usage. En fait, le problème, c'est que vous êtes dans une génération, effectivement, on n'a pas vécu ça, et c'est des modes d'usage. Effectivement, l'écran est partout maintenant. On peut le regretter.
J'ai une question pour Raphaël.
Déjà qu'il puisse finir sa réponse, et ensuite vous posez une question.
Parce que je voudrais pas du tout laisser penser qu'il n'y a aucun problème et que tout va bien. Par contre, dans le rapport, ce qui est très intéressant, c'est quelque chose qu'on pointe souvent, c'est l'usage, le rôle des algorithmes.
J'allais y venir.
Et là, on parle d'une balance, et c'est très intéressant de le poser comme ça, une balance bénéfice-risque. Et moi, j'irais presque dans un schéma un peu différent sur, par exemple, le Nutri-Score ou l'alimentaire. Aujourd'hui, quand vous trouvez un produit en supermarché, vous avez la liste des ingrédients. Je vois pas pourquoi, pour le numérique, on n'aurait pas la liste des ingrédients. Et en fait, la vraie problématique pour moi, c'est d'imposer la transparence, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour savoir ce que TikTok, ce qu'Instagram affiche à nos enfants et comment c'est choisi. Et c'est ça voilà. qui est important. Donc en fait, ce qui est intéressant, le vrai problème, c'est l'opacité totale. Alors, il y a le manque total de modération. Là, c'est le volet cyberharcèlement, mais c'est encore un autre débat. Par contre, sur le volet, entre guillemets, trouble de l'attention et retenue de l'attention, là, la vraie problématique, c'est de c'est dire, si vous n'ouvrez pas vos algorithmes, vous n'entrez pas en Europe, vous sortez, vous n'êtes pas chez nous. On n'accepterait pas qu'une entreprise qu'on ne connaît pas, qui vient d'un autre pays sans les mêmes normes, arrive et mette des produits dans nos supermarchés. Donc, je ne comprends pas pourquoi
on l'accepte. Raphaël, ça, c'est une erreur.
Après, je m'adresse aussi à l'agriculteur, aux agriculteurs, ou parce que aujourd'hui, demain, l'Union européenne interdit TikTok. Bon courage pour aller vendre du vin en Chine pendant les.
Non mais je suis complètement d'accord sur le fond. Mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui. Présenter les choses de la sorte, c'est aussi rebalancer le problème sur les politiques qui, de toute façon, feront rien ou pas grand chose. Et je pense que il y a quand même un sujet autour de l'éducation et des parents, quoi, par rapport à ça. Mais il faut aussi les responsabiliser.
Mais Raphaël, il y a quand même
une différence. C'est fini. Merci Raphaël Grabli. Merci. Mais non, mais la discussion va continuer dans un instant. Et je remercie Raphaël d'avoir été avec nous, chef service tech BFM TV. Et on la reprend avec Michael dans un instant, qui est pour interdire les réseaux sociaux aux mineurs, et David qui a deux enfants et qui a bloqué les réseaux sociaux sur leur téléphone. Donc deux témoignages. À tout de suite avec les grandes gueules.
RMC.
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story. On continue de débattre de cette préconisation à propos des écrans pour les jeunes, interdire l'usage des écrans aux enfants de moins de 3 ans, les téléphones portables aux moins de 11 ans. Et puis après, on limite pour les adolescents la ligne directrice et smartphones sans réseaux sociaux jusqu'à 15 ans, c'est-à-dire jusqu'à l'entrée au lycée. On va en parler dans un instant avec Mickaël et avec David, mais j'ai juste une petite annonce à vous faire, et pas des moindres. Si vous voulez vivre l'expérience Ligue des Champions, la demi-finale c'est la semaine prochaine, au Parc des Princes, entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund, et vous aurez compris que c'est donc
le dernier match de Coupe d'Europe.
Le match retour. Eh bien, dès que vous entendez ceci, il faut à ce moment-là, vous avez 5 minutes pour m'envoyer PSG par SMS au 732-16. PSG par SMS 732-16. Vous avez la visite des studios RMC. Ensuite, direction le Parc des Princes pour assister au match avec la personne de votre choix. Et vous revenez ensuite assister au débrief dans l'after avec Gilbert Bribois et Daniel Riolo. Donc l'expérience PSG Dortmund, vous envoyez PSG par SMS au 732-16. C'est le match retour de la demi-finale de la Ligue des Champions. On revient à notre discussion sur les portables avec Mickaël. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir écouté tout le monde, Mickaël. Vous êtes dans l'Oise. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'on interdit les réseaux sociaux jusqu'à 15 ans?
Ça serait une bonne idée de les interdire. Ce serait une très bonne idée. Après, au niveau légal, je ne sais pas comment on peut le faire. Il y a clairement l'éducation des parents à faire. Ça va sans le dire. Hein. Mais il faut. Même la Chine interdit, enfin limite l'utilisation de TikTok à une demi-heure ou un truc comme ça. Aux enfants de moins de 15 ans. Si les Chinois le font, je pense qu'ils savent pourquoi ils le font.
Alors, vous êtes parent, vous, ou pas, Mickaël?
Moi, je suis parent et grand-parent.
D'accord. Et juste, alors, donc, la question se pose plus, alors, pour vous, des réseaux sociaux?
Ah, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Mais c'est pour ça que je milite aussi pour le retour du 33-10. Hein. Carrément, on pourrait relancer une production et peut-être même donner un 33-10 aux enfants, tout simplement. Parce qu'ils ont besoin d'envoyer des textos, ils ont besoin d'appeler les parents, on ne sait jamais.
Faut expliquer ce que vous appelez un 33-10.
Le vieux Nokia, voilà.
Ouais.
Vous avez Internet, et on peut téléphoner et envoyer des textos. Voilà.
Point barre.
Et du coup, par ce fait, on peut même être en réseau avec ses amis par texto. Hein.
Voilà, exactement.
Quand on a cet âge-là.
Sur les réseaux sociaux, il n'y a aucun contrôle. Il n'y a aucune modération, rien du tout.
Donc aujourd'hui, comme les parents n'y arrivent pas, Michael, vous dites faut serrer la vis directement. On va voir justement comment procède.
Je préconiserais de serrer la vis. Après, alors, le légal, il faut trouver le moyen de le faire. Hein, parce que
alors, Michael, vous allez écouter ce qu'en dit David, qui nous appelle du Gard. Bonjour David.
Bonjour. Bonjour.
Alors, merci vous, mais je vous en prie, comment vous faites vous?
Alors comment je fais? Ben moi c'est simple. Donc j'ai un enfant de 15 ans, une petite de 11 ans. Via le téléphone, en fait, j'ai la possibilité de surveiller tout ce qu'ils font. Alors je sais que malheureusement, quand vous dites, il faut l'interdire. Est-ce que légalement ça serait possible et est-ce qu'il n'y aurait pas des moyens détournés d'y accéder? J'ai du mal à y croire qu'une interdiction totale serait possible. En revanche, je pense que c'est de la responsabilité des parents et je pense que moi, mon fils à 15 ans, il n'a toujours pas les réseaux sociaux. Le seul que je lui accorde de temps en temps, c'est le réseau social WhatsApp, et encore si on peut considérer comme un réseau social, mais plutôt comme une messagerie privée. Et même quand il fait ça, quand il est sur WhatsApp, on voit aussi la déviance que ça peut avoir, puisqu'en effet, via son groupe, via son collège, ils ont un groupe intitulé Objectif 10 000. Donc ici, leur objectif, c'est d'être 10 000 d'ici la fin de l'année. Mais on se rend pas compte de l'impact derrière qu'il y a sur la partie sommeil, parce que en effet, ça fait du message jusqu'à 1h, 1h30, 2h du matin, où l'enfant, du coup, ne dort pas, il veut regarder les messages. Ben, c'est incroyable. Et donc, du coup, moi, je limite via mon téléphone, alors je sais pas si j'ai le droit de citer la marque, ou en effet, toute application qu'ils doivent avoir sur leur téléphone, ils doivent passer par mon aval.
D'accord. C'est pas mal ça, effectivement. Donc,
ça, c'est la base.
C'est vous qui avez la main.
Non, mais le contrôle parental. Non, mais c'est ça qui est fou, c'est que à chaque fois qu'on parle du contrôle parental, il y a des gens qui découvrent. Ah bon, on peut.
Non,
ça
mais
devrait même être.
Barbara, il faut pas sous-estimer les gosses, quoi. Enfin, moi, j'ai une compagne qui a été dans cette relation conflictuelle avec son fils, et je peux te dire que le contrôle parental, il durait une heure, quoi. Il durait une heure et il y avait des copains bien plus que lui qui craquaient le contrôle parental en une heure, quoi.
Oui, mais alors,
dans ce cas, tu vas voir, ça va être contrôle parental en direct live après.
Exactement.
Parce qu'après, si les parents sont pas capables de contrôler en live, c'est un autre problème.
Non, mais je pense que faire croire que tous les parents démissionnaires, c'est faux. Il y a aussi les parents qui se battent contre ça, mais qui n'ont pas forcément les arguments techniques, quoi.
Allez-y, David, alors, continuez.
Si je peux me permettre, en effet, si ça allait au-delà de ça, et à un moment donné, par rapport aux notes de l'enfant ou par rapport à une problématique que je rencontre, en effet, où. Alors, ça n'a jamais été rencontré, quand même, de craquer le contrôle parental. C'est simple, je lui prends son téléphone, il reste à la maison et son téléphone ne touche plus.
D'accord.
Et je pense qu'il y a un réel bienfait, si je peux me permettre, c'est que mon fils, pendant un moment, il y a eu des moqueries, peut-être à l'école, parce qu'en effet, il n'avait pas le réseau social. Mais si je vais plus loin et si je vous dis pourquoi j'ai mis ça en place, c'est qu'à l'époque, on s'est rendu compte qu'à 11 ans, on lui a donné un smartphone, justement, en entrant en 6e, en se disant de manière totalement innocente, il a le téléphone pour aller au collège. Et sa mère, un jour, en allant faire ses devoirs, elle s'est rendue compte de quelque chose sur son téléphone, je ne le dirai pas explicitement. Et là, on s'est dit, waouh, en effet, bien smartphone, il y a des possibilités qui sont infinies de la part de l'enfant. Et donc, si on ne met pas des blocages dès maintenant, et si on ne surveille pas dès maintenant, parce qu'on a beau dire qu'il est 11 ans, qu'il est 15 ans, qu'il est 16 ans, 17, il aura toujours des tentations. Et ces tentations-là, via les réseaux sociaux, je pense qu'elles sont énormes. Si on ne bloque pas, et si les parents, en effet, ne prennent pas un minimum de responsabilité là-dessus, en effet, ça engendre, je pense, des violences. On le voit tous sur les réseaux sociaux, si on voit des choses ultra violentes. Oui.
David, vous avez réussi à garder le contrôle via une appli. Voilà, vous faites œuvre d'autorité. Je vous propose d'écouter Aurélie, qui nous appelle du Finistère, de Bretagne. Bonjour Aurélie.
Bonjour tout le monde. Bonjour.
Vous avez entendu l'exemple de David. Aurélie, vous, c'est la guerre à la maison, vous?
Oui, c'est un peu la guerre dans le sens où j'ai deux enfants de 20 ans et un autre aussi de 11 ans. Et donc, du coup, il se fait souvent moquer parce que c'est le seul qui a un smartphone, certes, mais il n'a pas les réseaux sociaux. Comme disait David, la personne précédente tout à l'heure, en effet, il existe des applications maintenant où on peut surveiller, limiter le téléphone de notre propre enfant. Et moi, hormis, pareil, le WhatsApp, parce qu'il y a le groupe classe, il n'a pas je vais pas nommer, mais il n'a pas les réseaux sociaux qui existent. Il est limité à 2h30 de téléphone par jour. Son téléphone, il le prend le matin en bas. Et il le remet en bas le soir avant d'aller se coucher. Et son téléphone est bloqué systématiquement à 20h le soir.
Ah ben c'est très bien ça, Aurélie.
Bravo, vous y arrivez alors.
Vous y arrivez bien.
J'ai été obligée parce que j'ai eu l'expérience de mes deux grands où, pas eux directement, mais leurs amis ont été confrontés via les réseaux sociaux à des harcèlements, à des jugements parce qu'ils n'étaient pas habillés. Enfin, tout ce qu'on peut voir maintenant à la télé qui prend des proportions même très graves.
Ouais, et justement,
donc, c'est une façon de les protéger, en fin de compte.
Bien sûr. Et les deux grands, ils n'ont pas essayé d'influencer le plus petit, justement, en disant, tiens, regarde ça.
Non,
ça va.
Non, voilà. Au contraire, ils sont presque encore plus protecteurs que nous en disant, attention, mais ça, c'est pas pour toi. Mais j'ai envie de vous dire que même en étant limité, mon enfant de 11 ans, c'est, par exemple, on a eu une discussion il n'y a pas très longtemps, j'ai été choquée. Il sait ce que c'est du cannabis, il sait ce que c'est de la cocaïne, ah oui. Il sait les. Sans avoir droit aux réseaux sociaux,
ah ouais.
Mais en même temps, j'ai envie de vous dire que les copains les ont.
Bah oui, parce que quand il est au collège, il regarde les réseaux, et on va pas se mentir, dans certains collèges, ça tout dépend là aussi. C'est comme dans les familles, hein, une famille qui tient ses gosses et le collège où, qui est tenu ou pas. Mais vous avez des collèges qui sont.
Dans un collège très strict, hein, quand même. Voilà. Le téléphone est interdit à l'intérieur, mais à partir du moment où c'est sorti.
Mais c'est vrai qu'une fois qu'ils sortent, à la sortie du collège, ils sont tous sur leur téléphone.
Mais même si on peut bloquer. Par exemple,
on a déjà eu des témoignages.
Vous savez, Google, on peut bloquer, par exemple, certains termes. Enfin, on peut mettre des limites sur la sécurité.
On peut mettre un filtre.
Et ben, voilà. Mais même avec ça, ils arrivent à voir des choses.
Ben oui. Et puis il y a toujours, comme le disait Didi, il y a toujours
des témoignages d'un copain qui monte un compte Facebook pour son copain qui a pas de téléphone.
Alors Aurélie, je vous remercie d'avoir été avec nous et vous avez réussi quand même à imposer à votre fils avec l'aide des deux grands, si je comprends bien aussi, hein,
oui, qui ont été là pour les deux grands frères, le papa, tout
veiller.
Mais vu ce qui se passe aujourd'hui, on est obligé de faire attention, de les protéger parce que ça devient trop grave ce qui se passe en ce moment.
Bien sûr, il y a des faits d'actualité qui font peur, qui effraient les parents. Il y a des choses horribles sur les réseaux sociaux, mais ne diabolisons pas non plus tous les réseaux sociaux. Pardon, il y a des choses formidables qui se passent sur les réseaux sociaux. C'est pas seulement du harcèlement, c'est pas seulement du porno, c'est pas seulement des images de violence. Oui, mais j'ai l'impression que les parents on leur fiche la trouille et tout d'un coup on diabolise alors le réseau social, le smartphone, l'écran en lui-même. On a bien compris que ce qui compte c'est l'usage.
Et
le contrôle parental.
Je suis d'accord avec toi pour les adultes.
Les
adultes peuvent aller chercher sur les réseaux sociaux
même
des contenus intéressants, mais je vais te dire une chose, honnêtement, pour avoir regardé, tu me trouveras un truc intéressant sur TikTok. Tu me trouveras un truc éducatif ou intéressant sur TikTok. C'est la débilité absolue TikTok. Je veux dire, ce réseau social n'a aucun intérêt.
Non, c'est
TikTok
pas vrai.
N'a aucun intérêt.
Il y a des artistes qui se produisent sur TikTok.
Non, Instagram. T'as Instagram qui fait à peu près la même chose que TikTok.
D'accord. Bah après,
mais TikTok,
c'est la même chose.
C'est fait avec des algorithmes qui sont faits pour aller plus de débilité.
Il y a des gens, par exemple, il y a des gens qui font des.
Si c'est l'algorithme qui t'emmène.
Il y a des gens qui font des.
T'as commencé par de la
débilité.
Exactement. Mais ça t'amène vers toujours plus de débilité.
Il y a des gens qui font des recettes de cuisine. Il y a des artistes qui se font découvrir grâce aux réseaux sociaux.
Ce que tu regardes,
tout dépend ce que tu regardes.
Barbara,
je te dis encore une fois.
Je te parle de TikTok.
TikTok, c'est pareil.
Va voir le TikTok pour un ado de 11 ans.
J'ai été voir TikTok.
Tu vas regarder ce que regarde les
enfants. J'ai pas mal de votes si ton ado de 11 ans regarde
n'importe quoi. L'algorithme, tu l'alimentes et après il t'alimente.
Ah oui.
C'est basé comme ça, tu l'alimentes et après
tu l'alimentes. Ah, c'est pas vrai. Donc, dis donc, tu m'en apprends des choses, j'étais pas au courant.
Mais sois pas comme ça. Donc,
mais tu me parles comme si j'étais une débile.
Mais non, je
l'ai expliqué.
Je te réponds quand tu dis.
Non, tu me réponds pas, tu m'expliques comme si j'avais rien compris.
Quand tu dis que sur TikTok, il y a que des trucs débiles, c'est parce qu'au départ, t'as regardé peut-être des trucs débiles.
Mais un gamin de. Mais c'est pas ça. Mais c'est fatigant à la fin. Cette façon condescendante de parler.
Mais il ne parle pas à toi.
Il n'y a pas un problème d'âge en
Barbara.
Fait. Il
n'y
a pas un problème d'âge avec les réseaux sociaux. Le seul problème des réseaux sociaux, c'est celui-là. C'est précisément
c'est ce que tu vas chercher.
Ça te piège parce que
mais
ça individualise le truc
mais
et que ça t'enferme dans un cercle où tu ne peux pas sortir.
Mais c'est pourquoi
j'ai des copains viticulteurs, ils font du commerce.
J'essayais de répondre à Olivier. Je suis d'accord avec lui. Quelqu'un qui a des centres d'intérêt, je te dis n'importe quoi, un gamin de 13 ans qui est passionné par l'astrophysique.
Voilà.
C'est passionnant les réseaux sociaux. Il va même pouvoir poster des photos de trucs qu'il filme, etc.
Partagera avec d'autres
passionnant.
Gens.
Mais on va essayer quand même de pas trop se mentir. Des gamins passionnés d'astrophysique et de Marcel Proust sur les réseaux sociaux sont moins nombreux, me semble-t-il, que les gamins que je vois dans les établissements scolaires et qui vont avoir tendance à regarder des choses qui sont un peu moins intelligentes et l'algorithme va leur servir des choses de moins en moins intelligentes. Donc, vu que la majorité de nos gamins sont plutôt exposés à ça qu'à l'astrophysique, je dis simplement, il vaut peut-être mieux contrôler parce que pour l'astrophysique, ils sont moins nombreux.
Alors, Nicolas va terminer la discussion. Bonjour, Nicolas.
Oui, bonjour.
Alors, vous avez un enfant qui a quel âge ?
Alors, j'ai un enfant qui a 12 ans et un enfant qui en a 3. Donc,
Celui de 12 ans, comment vous faites ? Vous surveillez ou vous aimeriez que la loi vienne et protège jusqu'à 15 ans ?
Alors non, pas du tout, parce que la loi, pour moi, interdire n'est pas la solution. Interdire n'est pas la solution, parce qu'on va interdire à un enfant de 12 ans de ne pas aller sur les réseaux sociaux, et derrière un ado, il va y aller. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je préfère survivre, être là avec lui, avec qui tu discutes, qu'est-ce que tu fais, toutes ces choses-là, plutôt que d'interdire et derrière un auto et faire des choses qu'on n'accepterait pas. Parce que moi, j'étais le premier, plus jeune, à mes parents m'interdisaient des choses, et j'étais le premier à le faire. Donc, non, pour moi, interdire n'est pas la solution.
Vous regardez l'historique, par exemple, Nicolas?
Bien sûr. Je regarde l'historique, je regarde avec qui il discute. Après, moi, il est sur Snapchat ou il est sur TikTok. Il n'y a pas de Facebook ou de Twitter ou toutes ces choses-là. Moi, c'est Snapchat ou Twitter ou TikTok, pardon.
Et donc, après, vous lisez ses conversations, par exemple?
Mais bien sûr. Mais en fait, j'ai même pas à lire parce qu'il me les montre. Il me les montre, tiens, je discute avec un tel ou un tel. Je sais avec qui il discute. Et s'il a des ajouts d'amis ou il a des personnes avec qui, parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui joue aussi. Et donc, ils s'échangent leur Snap pour discuter, pour échanger. Et je sais avec qui aussi ils discutent. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas interdire. Pour moi, c'est mon opinion, c'est mon avis. Et comme je reviens sur TikTok, il y a des choses très intéressantes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses notifs, pardon. Mais et comme on disait, la cuisine, il y a des policiers qui ont TikTok, il y a des pompiers, il y en a, il y a de
oui,
tout.
C'est juste qu'est-ce qu'on en fait, quoi, c'est tout. Ouais, c'est ce qu'on en fait.
Voilà, exactement, c'est ça. Et
vous êtes adulte, Nicolas. Bien sûr, qu'en tant qu'adulte, on va regarder des choses entre guillemets intéressantes, encore heureux, sur TikTok.
Mais
quand je te dis intéressant.
Alors à 18 ans, t'es formidable. Tu deviens vertueux.
Mais pas intéressant. Mais non, je t'ai pas dit ça. Je te disais intéressant pour toi-même.
Il y a des mômes de 15-16 ans qui vont chercher des trucs intéressants. Oui. Il y a des adultes qui ont 40 ans qui regardent des débilités toute la journée sur TikTok.
Mais c'est
alors, est-ce qu'on doit dire à ces adultes aussi qu'il faut les interdire pour les contrôler?
C'est ce que je t'ai expliqué tout à l'heure sur l'astrophysique.
Barbara, tu nous expliques en gros que les enfants, de toute manière, sont complètement débiles et qui sont forcément, eux contrôlent.
Va voir une cour de récré de primaire et tu vas voir s'ils regardent que des choses intelligentes. Non, mais t'as raison. En fait, il faut arrêter le bashing. C'est vrai qu'une cour de récré de primaire, la cour de récré de CE2, CM1, c'est vrai qu'ils regardent que des choses très très intelligentes sur les réseaux.
Le problème, c'est que normalement, ils n'ont pas en CE2, CM1 à avoir le portable dans la cour de récré.
Non, mais quand je te dis dans la cour, je te dis aux abords. Mais dans le parc, quand ils sont en
Barbara,
ils ne regardent que des choses très intelligentes.
On est d'accord là-dessus.
Non, d'après Olivier, si.
Non, j'ai jamais dit. Je dis que ce bashing anti-écran, à mon avis, est totalement vain. Parce que l'écran fait partie de notre vie, fera de plus en plus partie de notre vie. Il faut effectivement fixer des règles, etc. Mais ne diaboliser. Alors, à ce point, les réseaux sociaux,
on termine. On a de toute façon un temps de retard énorme dans notre discussion parce qu'on parle des réseaux sociaux, mais la vraie problématique qui va se poser pour les gosses et notamment pour l'éducation, etc., c'est l'intelligence artificielle et l'usage de l'IA. Notamment dans les écoles, etc. Et l'accès à l'IA.
Je vais te dire, on n'arrive déjà pas à contrôler les GAFAM, alors quand les GAFAM vont mettre tout avec des deepfakes et compagnie, et les gamins qui déjà aujourd'hui ne font pas la différence entre une fake news et une information vérifiée, alors là, avec les IA, laisse tomber.
On a un temps de retard.
Faut-il interdire les réseaux sociaux au moins de 15 ans? Oui ou non. Résultat final, c'est quand même un oui à 76%. Donc, vous aimeriez bien qu'en fait la loi vienne vous donner un coup de main dans cette histoire.
RMC, 9h30, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, discussion, débat avec Barbara Lefebvre, Bruno Poncet, Frédéric Farah. On va parler avec vous, tiens, enseignants, c'est le moment de témoigner aussi au 32-16 avec nous du CAPES de mathématiques.
RMC, les grandes gueules.
Comme l'an dernier, le CAPES de maths qui permet d'enseigner au collège et au lycée essuie des rafales de critiques. Pourquoi? Et alors là, c'est public, c'est sur les réseaux sociaux de la part d'enseignants qui montrent les copies, qui les comparent aux copies d'il y a 20, 30 ou 40 ans en disant mais c'est du niveau des élèves auxquels on va enseigner. Alors oui, vrai ou pas?
Il y a les témoignages notamment recueillis par le journal Le Point. Il y a par exemple Laura, qui est une ancienne professeure de mathématiques, qui a passé au crible la première épreuve écrite du CAPES 2024. Et elle dit, les premières questions, c'est du niveau collège. Et ensuite, elle regarde chaque question. Elle dit, bah là, c'est du lycée. Là, c'est niveau troisième, etc. C'est d'une facilité déconcertante. J'ai halluciné quand j'ai vu les sujets. En fait, il y a un abaissement de la valeur du diplôme, si j'ai bien compris, parce que la profession est devenue peu attractive. Visiblement, on cherche des profs de maths désespérément. Et quand on en a, enfin, des candidats, on donne quasiment le diplôme parce que comme ça, on s'assure d'avoir des profs pour la rentrée prochaine. Cet abaissement de la valeur des diplômes, est-ce que c'est quelque chose qui peut s'inverser ou est-ce que ce sera difficile de revenir en arrière ?
Barbara ?
Il y a différentes choses. C'est vrai que le CAPES de maths, on est sur, en 2023, on est sur 793 candidats reçus pour 1040 postes à pourvoir. Donc vous voyez bien que forcément, le niveau d'admission va baisser. Il était à 8 sur 20. Voilà. Je rappelle quand même que c'est encore pire pour les professeurs des écoles. Et ça, c'est oui. Encore plus inquiétant. Parce que aujourd'hui, dans les académies les plus gourmandes en enseignants, c'est-à-dire Créteil, Versailles, on peut par certaines années être sur du 4 sur 20 de niveau d'admission. Donc vous avez des élèves, c'est pour ça que moi le nombre de gens qui viennent me dire l'instit de ma fille fait des fautes d'orthographe, bah oui, ou l'instit de mon fils fait des erreurs dans les calculs au tableau et se sert de la calculette parce qu'il n'arrive même pas à calculer, bah oui, puisque on a fait baisser le niveau du diplôme, du concours, parce que on n'arrive pas à recruter. Donc le vrai centre du problème, avec Frédéric, mais ça serait trop compliqué à vous expliquer pourquoi la réforme de la masterisation a été aussi un des facteurs qui a fait reculer le nombre de candidats, parce que vous avez des étudiants qui se sentaient pas d'aller jusqu'au bac plus 5, alors qu'avant il fallait un bac plus 3 et une grosse formation de terrain. Donc la formation pose problème, mais c'est surtout l'attractivité du métier. Quand on entend aujourd'hui ce qui se passe dans les écoles, il y a des gens qui nous ont accusés d'ailleurs de dire oui, vous parlez trop mal de l'école, vous rendez pas le métier attractif. Souvent, c'est ce que nous reproche l'institution. Oui, mais sauf que il faut pas mentir aux gens, faut pas mentir aux parents, faut pas mentir aux élèves, il faut pas non plus mentir aux futurs profs, de leur dire venez vers le plus beau métier du monde. C'est le plus beau métier du monde et ça, je n'en disconviendrai jamais. C'est un métier absolument fabuleux, mais les conditions dans lesquelles on travaille, et je parle même pas du salaire, mais c'est au-delà même du salaire. Le salaire, c'est déjà pas terrible, mais les conditions, le mépris à la fois de la part de la société et de notre institution, ne nous étonnons donc pas que le niveau des concours soit entre guillemets, obligé de baisser pour recruter, et on n'arrive déjà même pas à recruter.
La question, c'est aujourd'hui quel est l'intérêt de devenir prof de maths ? Je pose la question de façon
un peu brutale. C'est passionnant, prof de maths.
Je pose la question un peu
brutale.
C'est
passionnant, prof de maths.
Donc, Frédéric.
Alors, je vais répondre à ta question. Je regardais sur le site très intéressant du Café Pédagogique qui expliquait que, par exemple, pour les concours du primaire, dans certaines académies, le niveau d'admissibilité est à 6 ou 7 sur 20, et dans d'autres, il est proche de 14-15. Bon.
Ouais. Donc, en 2014, il était à 4 sur 20 à Créteil. C'était 2014.
Aujourd'hui, c'est évident qu'on peut se poser la question, quel est l'intérêt, on peut faire ça pour tout, hein. Quel est l'intérêt d'être prof de maths, quel est l'intérêt
d'être prof de philo,
de prof de SES.
Si cheminot, on voit les intérêts.
Il n'y a pas d'intérêt.
C'est évident qu'aujourd'hui, cet intérêt se dissipe de plus en plus. Pourquoi ? Parce que les conditions d'exercice de ce métier, Barbara l'a très bien dit, deviennent dramatiques. La politique, même du gouvernement, pour revaloriser le PAC, les primes, tout ça, ça ne marche pas. En plus, il y a une revalorisation au début de carrière, milieu, fin, il n'y a pas. Donc aujourd'hui, beaucoup de gens se posent la question. C'est-à-dire, la société regarde les professeurs toujours avec un angle critique. Ils foutent rien, ils sont toujours en grève.
J'ai l'impression que c'est moins vrai. C'est moins vrai.
Mais on l'entend. Ouais. On a les parents sur le dos qui sont absolument surprésents et étouffants par certains côtés. C'est vrai que ce métier a perdu complètement l'attractivité. Et comme aujourd'hui, évidemment, ce métier n'intéresse plus, qu'est-ce qui va se passer ? On va avoir de plus en plus des arrière-bandes d'amphis qui vont faire ce métier. Hein, parce que les gens voudront plus faire ça, parce que les conditions sont pas là. Et puis tant que le gouvernement va continuer que ce celui-là ou celui d'avant de faire des réformes de caporalisation permanente, c'est-à-dire la réforme Blanquer a été pour moi le truc le plus dingue qu'on ait jamais vu. Ça a été mis en marche au forceps pendant le Covid sans aucune concertation.
Et au début, c'était en plus au détriment des maths. Il a fallu que non seulement les profs hurlent, mais que enfin les parents d'élèves se rendent compte que pour leurs gamins, c'était la catastrophe.
On supprimait les maths.
Mais combien de temps ça a pris ? Il y a eu 2 ou 3 années de sacrifier. Il a fallu que les élèves eux-mêmes l'éprouvent et que les parents se disent « Mais qu'est-ce que c'est que cette catastrophe ?» Alors que ça faisait des mois et des mois que les profs alertés disaient « Mais comment on peut faire ça ?»
C'est pas depuis Blanquer.
Enlever les maths dès la seconde. Non, c'était aberrant.
C'est Blanquer que le métier de prof est valorisé.
Mais non, mais la question que tu te poses, c'est comment un ministre comme M. Blanquer, qui est un ministre sérieux, qui connaît la maison, comment il a pu se laisser convaincre par des rapports à la noix de gens qui sont des profs d'université, qui comprennent rien au terrain, qu'il fallait enlever les maths en seconde.
Non mais on est d'accord.
Les maths,
Barbara,
c'est l'avenir.
Non mais d'accord.
Si t'es une puissance, si tu veux être une grande puissance économique et que t'as pas des bons matheux, Cédric Villani, il vous l'expliquera. C'est la catastrophe.
D'accord, très bien. Mais ça, c'est un peu, j'ai envie de dire, un peu conjoncturel. Mais au sein même de la société, aujourd'hui, le professeur n'a plus la place qu'il avait auparavant, comme le médecin d'ailleurs.
Oui, ça, d'accord.
Donc, tous les métiers à vocation sont dans cette situation.
Bah, voilà.
Les métiers d'utilité sociale et d'utilité publique sont dévalorisés.
Donc, aujourd'hui, mais ce qui est inquiétant, comment revaloriser pour que un jeune se dise tiens, prof de maths,
c'est terrible.
C'est un métier où je serais respecté, où je serais bien payé,
Mais c'est terrible. Parce que le professeur, c'est lui qui transmet le savoir.
Oui.
C'est lui qui te prend, qui t'élève, qui détecte chez toi aussi si t'es un bon. À l'époque, ça nous faisait rigoler, la génération, c'est soi-disant, tu sais, t'avais le fort en maths. D'ailleurs, c'était assez rigolo. Sauf que dans une société qui va être de plus en plus confrontée en plus à l'intelligence artificielle, qui va être de plus en plus confrontée aux besoins du numérique, on va avoir de plus en plus besoin justement d'avoir cet esprit logique et Moi, j'étais pas matheux. J'ai toujours buté moi sur les exercices de mathématiques, etc. Tu vas avoir de plus en plus besoin d'avoir des professeurs qui vont te prendre, qui vont t'initier, qui vont t'aider. Donc là, c'est inquiétant ça.
C'est très inquiétant.
C'est doublement inquiétant. C'est que pour ne pas justement être victime de la machine, pour ne pas demain devenir les esclaves de l'intelligence artificielle, il faudra être non seulement très bon en maths, mais il faudra être aussi faire de la philo, avoir une capacité à penser à ce que c'est l'éthique, à se positionner. Donc il va falloir former des gens qui vont avoir des bonnes capacités d'élaboration logique et des très bons niveaux de mathématiques pour précisément ne pas être les esclaves des machines. La France des robots de Bernanos, excusez-moi, c'est l'après-guerre,
La machine
a écrit ça.
Va permettre aussi un apprentissage.
Mais justement, si on ne veut pas se faire bouffer par les machines, et je trouve ça fou que nos gouvernants, et quel qu'ils soient, droite, gauche, ça je m'en fous, c'est pas la question, ne prennent pas la mesure de la nécessité aujourd'hui de redonner ces lettres de noblesse à des disciplines comme les mathématiques, et je parle vraiment des mathématiques, c'est-à-dire de la logique démonstration mathématique. Et c'est ça qui manque aussi dans les concours.
Mais on ne reviendra pas en arrière, destruction. C'est ça qui est terrible, c'est-à-dire on a démantelé un système qui était quand même plutôt bon, et aujourd'hui on ne reviendra pas en arrière, et les grands perdants sont les générations présentes et futures. Voilà.
Bruno Poncet, t'étais bon en maths, Bruno ?
Ouais, enfin, jusqu'à temps qu'on m'enquille de la géométrie, là ça commence à me saouler.
8 fois 7
56.
Là, c'est nul. Et moi, c'est une nulle en maths absolue qui vous parle. Moi, j'ai fait un bac A2, j'ai eu 5 sur 20 au bac.
Moi, j'ai eu un parce que
je sais que c'est important les maths.
C'était le bac des filles.
Tout à fait. J'avais un garçon dans mes classes.
Les filles devaient être bonnes en français et les mecs.
Vous avez raté le carnet notes de Bruno Poncet. Tu as eu combien ?
Moi, j'ai fait un bac 1. Parce que j'ai fait un bac B, mais après, j'étais viré, donc j'étais dans le privé. Et en fait, j'ai fait un bac 1. Et bac 1, c'était 5 en philo, 5 en français, les coef. Sauf que c'était 4 en maths.
Ouais,
et moi, en maths, j'étais une bille.
Bah oui,
en bille, parce que c'est les fonctions et je n'écoutais plus. Moi, j'ai arrêté d'écouter en maths en 3e, ça me saoulait. Et en fait, j'ai eu 1 en maths. Donc j'avais au rattrapage, je n'ai pas choisi maths alors que j'aurais pu rattraper parce que même avec 4, j'avais mon bac en fait. J'ai pas pris maths, j'ai pris philo et histoire géo parce qu'en maths, je savais que j'aurais peut-être même pas eu 2 en fait.
Tu sais qu'aujourd'hui, tu serais à la place de Jean-Pierre Farandou. Hein.
Non, je suis à la place de Bruno Le Maire, parce qu'il s'est pas compté. On a bien vu ce qu'il faisait avec l'économie française.
Oui, donné, faut être exactement. Très
mais moi, j'ai raté ma mention très bien au bac à cause de mon 5 sur 20 en maths. Et pourtant, en A2, c'était pas beaucoup de coef. J'ai raté à cause des maths et de l'EPS. Mais malgré ça, aujourd'hui, je le dis, même ma fille, je la pousse énormément sur les maths. Elle est bonne dans tout, mais c'est les maths, je lui dis, faut carburer en maths.
Bah surtout qu'on
et son père, il
la
lâche pas sur les maths.
Mais oui.
Oui, et qu'on
a besoin de scientifiques.
Nous sommes avec Yann.
Et de femmes scientifiques.
Yann qui nous appelle du Gard. Bonjour Yann.
Bonjour les DGG, ça va ?
Oui, ça va, Yann, artisan boucher, fidèle des GG. Comment vous avez réagi alors en entendant que le CAPES était au niveau du lycée alors ?
Ah ben très mal, mais de toute façon, ça fait plusieurs fois déjà que vous en parlez sur dans vos émissions. Mais c'est moi ce qui me met le plus en colère, c'est que bon là c'est le CAPES de maths, mais c'est tout qui est tiré vers le bas. Et comme dit Barbara, les maths c'est l'avenir pour tout. Quand on parle d'intelligence artificielle et tout ça, on va avoir besoin de développer ça. Mais avant, je pense qu'il faudrait déjà supprimer la connerie naturelle, quoi, parce que c'est...
Ça, c'est un vaste travail.
Chez qui ?
Ah, oui, mais
qui c'est qui a trouvé le vaccin ?
Ah ben ça, on ne sait pas, ça. Ils ont été vite, par contre.
Yann, vous étiez bon en maths, vous, ou pas ?
Pas mauvais, mais quand je suis sorti de troisième, comme je disais tout à l'heure à votre
Bruno,
à votre standardiste, oui. Ouais. Quand je suis sorti de troisième, je connaissais mes tables de multiplication. Ouais, moi, maintenant, je prends un apprenti, mais c'est un carnaval, quoi. C'est un carnaval où il faut tout le temps une calculatrice à la main pour peser.
Oui, il faut dire que la calculette a remplacé le calcul mental.
Moi, j'ai été fou. Hein, j'ai mon fils le plus âgé à 28 ans. Donc, quand il était en CM1, CM2, ça remonte déjà à presque 20 ans maintenant. Il fallait déjà la calculatrice et tout ça, mais j'ai pris des colères mais phénoménales à cause de ça. Ils savent plus rien faire, les gamins.
Et vous savez, Yann, il n'y a pas de secret non plus. En 30 ans, le volume horaire d'enseignement des maths a fondu de 25%. Quand vous faites reculer les mathématiques pour faire d'autres disciplines qui, à mon sens, je suis désolée, de toute façon, le temps scolaire est mal organisé. Mais qu'est-ce qui se passe dans les écoles privées ? Dans les écoles privées, les élèves peuvent faire jusqu'à 2 heures de maths de plus par semaine parce qu'ils disposent comme ils veulent de la DHG. Donc vous avez
expliquer ce que c'est que la DHG.
La dotation horaire globale. Dans certains collèges privés, par exemple, en sixième, ils ne vont pas faire sciences, par exemple. Et ils ne vont pas faire techno. Les heures de sciences et techno, elles sont converties en heures de maths. C'est-à-dire qu'ils vont faire 2 heures de maths en plus. C'est-à-dire qu'ils vont commencer juste en cinquième un peu de sciences. Et la vraie SVT sciences physiques, ça va être quatrième, troisième. Alors que nous, dans le public, on est obligé de coller les heures de techno, de sciences nat, de sciences physiques. Le principal du collège, il ne peut pas prendre ces heures-là pour les donner aux profs de maths.
C'est la science nat.
Oui, mais c'est plus important. C'est plus important de renforcer les mathématiques. Moi, je peux te dire, je le dis honnêtement, ma fille a été dans le privé en partie au collège. Maintenant, elle est dans le public. Son niveau de mathématiques là en troisième, il est énorme.
Donc, on va créer un système à deux vitesses.
Parce qu'elle était dans un collège. Elle était dans un collège privé où elle avait 2 heures de français de plus et 2 heures de maths de plus par semaine.
Yann était un peu affligé. Yann, et reste avec nous pour écouter Mélissa qui nous appelle du Var et qui est étudiante en lettres. Bonjour Mélissa.
Bonjour les grandes gueules.
Vous vouliez réagir pourquoi Mélissa, dites-nous alors.
Parce que moi je suis étudiante en lettres et pas en maths, mais du coup, personnellement, je vois la même chose dans ma filière. C'est-à-dire que moi, j'ai repris mes études, j'ai passé mon bac en 2012 et donc j'ai fait des études en lettres, bac plus 3, 2012 jusqu'à 2014. Et j'ai repris mes études là, cette année.
Ouais.
Et j'ai vu le niveau, mais alors moi qui étais une étudiante moyenne plus, il y a 10 ans, là je me retrouve avec 18 de moyenne, avec des copains qui en CAPES, master de lettres, ne font pas la différence entre un dialogue et un monologue. Donc j'ai c'est pas possible.
Et comment vous l'expliquez ça?
Je sais pas. Alors moi apparemment de ce que j'ai compris, il y a beaucoup d'étudiants qui ont eu le bac pendant le Covid, donc un bac un petit peu donné aussi, et une complaisance des enseignants, mais que je ne comprends pas. C'est-à-dire
donc en fait on abaisse la valeur des diplômes.
Complaisance des enseignants, c'est ce qu'elle dit, Mélissa, voilà.
Quand je vois des copains qui, sans vouloir être méchante, mais qui font pas la différence pendant un oral entre un dialogue et un monologue, et que le prof lui met 11 à l'oral, ben moi il y a 10 ans, et puis c'était pas il y a 40 ans, mais il y a 10 ans en 2012, mon prof m'aurait mis 2, quoi. Et puis voilà. Mais là je comprends pas. Il y a aussi la masterisation de Blanquer qui a baissé le niveau. Moi, je parlais avec de mes professeurs qui nous expliquaient qu'en bac plus 5, passer le concours, passer un mémoire, être stagiaire au collège, être même pas payé un SMIC, tout le monde a baissé les bras, les étudiants, les profs. C'est normal.
Mélissa, je vous remercie de ce témoignage. Vous voulez faire quoi dans la vie plus tard, Mélissa?
Je veux être prof de lettres.
Allez-y, parce qu'on a besoin de gens qui connaissent la différence entre un monologue et un dialogue.
J'espère que le niveau sera un peu plus élevé, parce que si c'est juste ça,
vous aurez 22 sur 20 au CAPES.
Mais elle a raison, Mélissa. Un Master 2 aujourd'hui, ça vaut une licence dans les années 90.
Mais Mélissa, vous êtes dans, c'est bien, 31 ans, vous avez la foi, gardez-la, vous êtes encouragée par nos deux enseignants.
Complètement.
Barbara et Fred. Et si vous avez besoin de petits tuyaux, de cours supplémentaires, de cours du soir, Mélissa, Fred et Barbara, vous êtes
On est là.
Les GG sont toujours là pour vous, Mélissa.
Même si Macron le veut pas.
Ils vous feront 10% sur les cours.
Gratos. On a gagné tellement
on
de sous.
On a posé la question. CAPES de maths, merci Mélissa. CAPES de maths, trop facile, diplôme donné. Est-ce que les diplômes ont encore de la valeur? Non pour vous à 85%.
RMC, les grandes gueules, tous les jours, 9h midi.